Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à ceux et celles que je n'aurais pas salués et que Dieu nous bénisse ce matin à travers une méditation dans sa parole. C'est un sujet qui revient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ne va pas plus loin, hein? Mais si, ça va plus loin, parce qu'on va parler du temps. On va parler du temps présent, du temps passé, du temps futur. Alors là, on n'y connaît pas grand-chose, mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible est un livre extraordinaire, parce que c'est l'histoire du temps, et c'est l'histoire qui nous présente d'une manière extraordinaire, formidable, eh bien, ce qui sera après. Voilà, le temps éternel. Et nous avons en effet un texte qui va nous introduire dans notre récit. C'est tout simplement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6, vous le connaissez, hein? Je pense qu'il peut être un bon accompagnateur de nos temps de prière. Alors, Ésaïe, je rappelle, 55, verset 6, simplement un verset. Hein. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez, et vous trouverez immanquablement, parce que c'est lui qui nous attend. Pendant qu'il se trouve, c'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie des hommes qui font qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Et ce n'est pas toujours quand tout va bien hein, que nous trouvons le Seigneur. Parce que lui, il nous attend là à l'endroit où peut-être nous sommes les plus vulnérables, les plus sensibles à finalement répondre à nos besoins, à nos détresses. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, alors à ce moment-là, vous savez, invoquez-le. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Quelle que soit la nature de ce que vous avez à dire sur le cœur. Sauf le mal. On ne dit pas de mal, mais on bénit. C'est ce que Jésus nous dit. Tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire que ça peut se comprendre de deux manières. Le Seigneur est proche, il est prêt. Mais il est prêt aussi à nous entendre. Alors on va tourner autour de ce verset et j'aimerais justement vous parler de la valeur du temps. Notre temps à nous, le temps du monde, le temps de notre monde d'aujourd'hui, notre société moderne. Elle a toujours été moderne pour, dans tous les temps, hein, pour ceux qui vivaient à telle ou telle époque, hein, ça c'est certain, toujours quelque chose de nouveau. Et pourtant, des livres de la Bible nous dit que de toute façon, tout tourne et tout se renouvelle. Tout se renouvelle et tout revient. Alors il y a certainement quelque chose à retenir de sagesse et d'intelligence sur la valeur du temps. J'aimerais justement vous parler d'abord de la temporalité, le temps. Ça nous concerne. Et tout simplement de l'interprétation. Polarité, intemporalité, l'intemporalité. Il y a trois choses que je voudrais te parler. C'est de l'homme, c'est de l'âme et c'est de l'esprit. Parce que tout cela, ça fait partie, nous sommes des êtres tripartites. Et nous vivons finalement à travers ces conditions que Dieu a créées finalement pour sa créature humaine, pour l'homme. Alors, l'homme et le temps. Vous savez que nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique maintenant, là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais, hein? Mais nous vivons quelque chose qui est un don de Dieu. Et oui, le temps. Alors, peut-être certains me diront, mais moi j'ai mal, je souffre, j'ai tellement de problèmes que je traîne. J'ai des fardeaux, j'ai toutes sortes de choses. C'est vrai que le temps est difficile. Ouais, d'autres vous diront le contraire. Bien, l'homme est le temps au travers son corps, que j'appellerais corps-véhicule. parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Nous marchons, nous parlons, nous entendons, nous voyons, nous faisons agir nos cinq sens, etc. Nous travaillons. Il y a des choses extraordinaires hein, dans le corps d'un homme. Les mains, les doigts et tout ça. On est capable, finalement, eh bien, de faire ce que l'homme a toujours fait sur la terre, inventif, ingénieux. Et toutes sortes de choses, ça, c'est son corps véhicule. On pourrait le réduire à tout simplement le physique, la matière, tout simplement. L'âme, maintenant. Eh oui, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose d'invisible, l'âme. Et pourtant, on ne serait pas là, parce que un corps sans âme, il est mort. Eh oui, on le sait, ça. L'âme, c'est la porte, en quelque sorte, de l'intemporalité. Ça commence à nous ouvrir un peu des perspectives. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des êtres inférieurs, nous sommes des êtres supérieurs. Et là, ça nous donne, quand il nous est dit que Dieu souffla un souffle de vie, il a soufflé l'âme, le souffle de vie. Et c'est une porte qui nous met, finalement, qui nous fait sortir un petit peu de notre condition physique et matérielle, pour nous amener à une autre dimension, qui est celle de notre identité, qui est celle, tout simplement, de notre personnalité. Ouais, nous sommes des personnes. Et nous avons toutes sortes d'émotions, de sentiments, l'intelligence, la conscience, etc., etc. Conscience d'être dans le temps. Ça, je le souligne. D'être dans le temps. Et on fait attention à la vie, hein. On n'a pas envie de la perdre. Et puis, il y a l'esprit. Alors ça, c'est quelque chose de formidable et qui est résumé par un texte de l'Ecclésiaste. Écoutez bien, je vais vous citer l'Ecclésiaste. « Avant que la poussière retourne à la terre, et on sait ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, ça donne au monde des frayeurs, naturellement, parce qu'on n'a qu'une vie. Enfin, on en a peut-être deux, mais dans différentes positions. Hein. » Tous les cas, une à la fois, hein, quoi qu'il en soit. Et avant que la poussière retourne à la terre et que l'esprit, il y a l'âme au milieu naturellement, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et là, il y a toute l'histoire de l'humanité. Il y a toute l'histoire de l'existence. Et encore, c'est un faible mot de dire, c'est peut-être pas approprié, l'existence. Il y a mieux que l'existence, il y a la vraie vie. Il y a la vie sur terre, c'est vrai. Mais il y a la vie qui nous est donnée par Dieu et qui, quelque part, eh bien, va rentrer là dans l'intemporalité. C'est-à-dire l'éternité, si vous voulez aller par là. On peut le dire de cette manière. Il l'a donné, nous l'avons, pour un temps. Mais nous avons aussi, en parallèle, en interface, une vie cachée. Une vie intérieure, un souffle qui nous donne d'être des hommes, créatures de Dieu. Et la troisième position, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, eh bien, c'est pour vivre dans l'éternité. On ne pleurera plus la mort. On ne pleurera plus de peur, de crainte, de perdre, parce que nous aurons tout. Moi, je pense que c'est un bel écho avec la création dans le livre de la Genèse, livre de l'Apocalypse, pour vivre dans l'éternité. Et ça sera un état d'intemporalité, finalement, spirituelle. Alors, on va essayer de faire le détail. C'était une petite introduction que j'avais fait comme ça, qui m'est venue au dernier moment, parce que je voulais quand même situer un petit peu. On comprend tous ce que ça veut dire. Être tripartite. Les temps de la vie d'un homme, nous dit la Bible, se déclinent par étapes. Oui, alors on peut le voir, hein, le bébé, l'enfant, l'adolescent, le jeune, l'âge d'un mûr, et puis il y a naturellement la vieillesse et la blanche vieillesse, pour ceux qui y parviennent naturellement par étapes. Et à chaque fois, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à connaître, de ne pas rester un fruit, ou un arbre plutôt, un arbre sans fruit. Mais à chaque fois, il y a quelque chose. Pour nous, chrétiens, c'est une grande valeur, hein, ça. Il y a des gens qui se disent « mangeons et buvons parce que demain, nous allons mourir ». Ça, c'est sûr. Mais si c'est que ça, que nous avons à apprendre, et si c'est que ça que Dieu a voulu nous donner, c'est pas ça, hein, pas du tout. Un fruit mûr, parti en son temps, disons-nous lorsque nous avons un frère et une sœur qui nous quittent pour le ciel. Il l'a pris en son temps, mûr. Alors, je dis que ça se décline par étapes, en expérience graduelle, et non gagne pas à chaque fois. Expérience, ça peut dire épreuve, ça peut dire tribulation, ça veut dire peut-être perte, quelquefois définitive, de beaucoup de choses qui nous servent sur la... C'est le cas de Job, hein, naturellement. Expérience graduelle. Ce sont des séquences de l'existence qui sont plus ou moins heureuses. Ou alors, tout simplement, hein, eh bien, où nous avons à les assumer avec patience. Et il y a un facteur qui nous donne la capacité, c'est notre foi en Dieu. Ce n'est pas résoudre les problèmes uniquement avec les moyens de la terre, mais c'est d'aller les chercher au ciel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Alors, souvent, la vie des hommes est aléatoire. Hein. Un jour ça va, un jour ça va pas, et puis ça revient, et puis ceci et cela. Quelquefois, on en perd un petit peu notre... on ne sait plus du tout où on en est rendu. Hein. Et quelquefois, on se trompe dans nos raisonnements. Parce qu'on se dit, tiens, mais je croyais que... Eh oui, on est tous, on s'est tous posé la question. Je croyais que, parce que, voilà, je me fie à ceci et cela, et je me suis trompé avec un faux raisonnement. Par contre, quelquefois, on ne se trompe pas. Alors, on va faire une petite analyse du temps, si vous voulez bien. Parce qu'on le vit, mais quelquefois, on n'en prend pas forcément toutes les conséquences et la mesure. La Bible nous dit qu'il y a un temps qui... le temps court. Ouais. Enfin, court et court. C'est-à-dire qu'il galope. Quelquefois, il est beaucoup plus loin, mais quelquefois, il est toujours court. Hein. Enfin, court dans certaines situations. On parle du temps qui passe. Et quand on regarde en arrière, on se dit, déjà ? Eh oui, déjà, pour des événements heureux. Ah mais, ça fait, vous rendez compte, 60 ans qu'ils sont mariés, on ne l'a pas vu passer. Hein. Enfin, peut-être pour les mariés, c'était peut-être un petit peu plus long, mais c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Hein. Alors, un temps qui nous emporte, comme vous savez, là, ce qui se passe là sur notre côte, sur notre littoral, un temps qui nous emporte et qui, quelquefois, ne revient pas semblablement à ce que nous avons vécu et ce que nous aurions aimé qu'il revienne de la manière dont nous l'avions vécu, parce que c'était des temps de bonheur, des temps heureux. Alors c'est vraiment du béaba ce que je suis en train de vous dire. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Il y a le temps vécu, je suis vivant, vous respirez avec moi, l'atmosphère de cette salle, et vous bénéficiez finalement eh bien, de ce culte. Ça, c'est le temps présent, tout simplement le temps vécu que nous sommes en train de vivre. Dans une heure, ça sera fini. Hein. On aura autre chose, certainement. Hein. Il y a l'instant T, ce que nous sommes. Et puis, il y a toujours l'imprévu mystérieux. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez peut-être un programme pour demain, non? Peut-être, certainement. Mais ça reste mystérieux. Alors, il y a des choses banales, il y a des choses indifférentes à la vie. Hein. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Hein, un examen ou visite d'un médecin. C'est ce qui va m'arriver demain matin. J'espère qu'il ne va pas me dire que... Moi, j'y vais confiant. Hein. Je lui fais confiance en tous les cas. Alors, l'imprévu mystérieux, la conscience ou l'inconscience de sa valeur réelle pourrait s'illustrer ainsi selon l'homme sage. Et vous connaissez le passage, c'est dans un psaume. C'est la prière. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Moi, je le demande de temps en temps. Je lui dis, Seigneur, aide-moi à ne pas faire de bêtises. Hein. Parce qu'il y a la nature qui est là. Vous savez, le pasteur, il n'est pas au-dessus des autres. Hein. Il est comme les autres. Hein. À travers toutes sortes de choses, oui. Et nous vivons finalement dans un état de fugacité. Ça passe, ça... Vous savez pourquoi on a des horloges et des montres? C'est pour nous montrer, eh bien, compter nos jours. Il est 11h moins 5. Ouais. La fugacité, les aiguilles du temps nous emportent. Il y a des secondes, il y a des minutes, il y a des heures, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, c'est ce que je vous ai dit, il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse. et c'est un patrimoine de souvenirs. Ouais. On a tous des albums photos, de moins en moins maintenant, parce qu'on a tout sur informatique. Mais on regardait plus souvent les albums de photos dans le temps qu'on regarde peut-être l'informatique, il y en a tellement. Alors, ouais, patrimoine de souvenirs, pour que nous nous souvenions des bons moments, que nous nous souvions des moments où c'était difficile et que Dieu nous a délivrés, et que ce qu'il a fait hier, il y a 10 ans, 20 ans, il est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est pas lui qui a changé, c'est nous. Hein. On oublie. C'est bien dommage. Qu'est-ce que j'ai fait de ce patrimoine de souvenirs? Qu'est-ce que j'en ai fait? Quels souvenirs j'ai pu en tirer? Quelles leçons j'ai pu en tirer? Qu'est-ce qu'il m'en reste de tout cela? Ça force un peu la réflexion, c'est normal, c'est fait pour ça d'ailleurs. Encore fugacité, poursuite du vent, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, je crois. Ouais, poursuite du vent. Parce que le temps renferme le comment, il renferme le pourquoi, et puis il y a quelque chose qui quelquefois peut nous faire plaisir ou quelquefois nous attrister profondément, il renferme les lieux de notre vie. On se souvient des lieux de l'enfance. Moi je me souviens quand c'était ma grand-mère qui m'a élevé. Hey, là où elle était, la maison, etc., etc. C'était formidable, hein, elle gardait un souvenir impérissable. Il y a des lieux que... j'ai du mal à retourner parce qu'ils ont été des lieux de difficulté, des lieux de souffrance et des lieux de pleurs, des lieux de maladie. Ah oui, ça c'est sûr. Ceux de nos joies et de nos peines, c'était le temps. C'était notre temps. Et il est différent des autres. Hein. On peut quelquefois se comprendre sur les choses. Notre vécu nous ramène, souvent nous le disons, mais est-ce que c'est vraiment approprié au bon vieux temps? Moi, je peux en parler maintenant, avec mon âge canonique, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, on dit. Et on dit toujours, ah, le bon vieux temps. Ah, dans ce temps-là, il y avait ceci et cela. Mais vous croyez qu'il n'était pas difficile il y a 40 ou 50 ans? Il était aussi difficile qu'aujourd'hui. Alors, soyons sages et ne donnons pas toujours tout de suite un verdict, parce que, vous savez, les choses sont... ça flotte. Hein. Oui, le bon vieux temps, qualité... en médiocrité aussi, selon le psaume 39, où il est dit cette parole, parce que, si vous permettez, je voudrais quand même faire quelques citations, c'est bien, au psaume 39, et il est dit cette parole, au verset 5 à 6, il est dit, « Éternel, c'est une prière, hein, dis-moi quel est le terme de ma vie, est-ce que vous voulez le savoir ?» Alors n'allez pas chez les astrologues et tout ça, hein, là, c'est dangereux. Je dis bien, c'est dangereux. Ouais, éminemment dangereux. Dis-moi le terme de ma vie. Ben, vaut mieux pas savoir, ça c'est sûr. Quelle est la mesure de mes jours? Seigneur, si tu me fais vivre 130 ans comme Jacob, je serai un homme heureux. Ouais, il n'a pas toujours été heureux, le pauvre. Il le dira d'ailleurs. Hein. Il dira, mais mes jours ont été mauvais. Ouais, c'est ce qu'il dira à Pharaon d'ailleurs. Que je sache... combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Alors, pour certains, des mains de géants, oui, mais pour d'autres, c'est vraiment très petit. Hein. Et ma vie est comme un rien devant toi, Seigneur. 1000 ans sont comme un jour. Hein? 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Hein? Alors, pour nous, ces 1000 ans, c'est quelque chose. Hein? Vous vous rendez compte? 1000 ans. On aurait connu Charlemagne presque. Alors voilà, donc, les choses sont présentées de cette manière. Fais-moi connaître la mesure de mes jours et la durée de ma vie à son terme. Ma vie finie est comme un rien. Un autre point. Dieu est le maître universel des temps. Je vous ai parlé de la valeur du temps, de notre temps, de mon temps. Dieu est le maître des temps, de notre temps, et des circonstances. Ouais. Alors c'est bien d'associer les deux, hein, le temps et les circonstances, le temps et les situations, le temps et les conditions. Parce que ça va ensemble, hein, de toute façon. La vie serait triste autrement. La foi en Dieu, nous dit aussi l'Écriture, passe avant la vue de nos yeux, parce que nous avons quand même une capacité que Dieu nous a donnée, c'est de voir et finalement d'agir en fonction de ce que je vois. Heureusement, nous ne sommes pas des aveugles. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous a donné une autre vue, un sixième sens, c'est la foi. Je ne vois pas, et beaucoup de gens disent, sans s'en apercevoir tellement, mais ils disent, ben, Seigneur, tu me montres, tu me montres, tu me dis, tu me dévoiles, et à ce moment-là, je croirai. Ça, c'est du thomatisme. Thomas, c'est moi qui viens d'inventer le mot, là. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelquefois nous fonctionnons. Non, la foi en Dieu passe avant, finalement, la capacité de la vue. Seigneur, si je vois, je croirai. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que Dieu nous dit, eh bien, crois d'abord et tu verras après. C'est la marche, un petit peu à l'aveugle. La foi est une conviction profonde de l'invisible. Et c'est bien cela que Dieu nous fait passer cette vie à travers différentes étapes, pour qu'à un moment donné, vraiment, nous décrochions avec la terre, avec le physique, avec la matière, etc., pour rentrer déjà dans une prédisposition, pour que lorsque nous arriverons de l'autre côté, il n'y aura plus tout ça, ça sera fini. Mais là, nous verrons l'invisible. Nous toucherons l'invisible. L'existence humaine, dans le visible, révèle le trouble d'un monde en errance. Et c'est vrai que, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est quand même pas dans un monde formidable. Enfin, les gens dans le temps, ils pouvaient dire la même chose. Et on vit mieux, certainement, que ceux qui vivaient il y a 300-400 ans. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que ça va être avec l'intelligence artificielle qui arrive au galop? Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que je voudrais dire, c'est que les réalités négatives, délétère de notre monde. Il n'y a pas que ça. Hein. Je veux bien dire qu'il y a aussi des choses qui sont bien. Alors, on ne va pas faire du... Moi, je ne veux pas jouer le faux prophète, enfin, le mauvais. Hein. Non, il y a les deux. Mais entre le blanc, bien blanc, et le noir, tout noir, il y a le gris. Et c'est dans ces mondes-là qu'on en vit. Alors, bon, politique, la question des questions préoccupantes sociales, la morale, il y a toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai qu'on apprend tout cela. Parce que le mal est éternel, sauf, et on en verra tout à l'heure, ouais, le mal, la mort peut être éternelle. Je dis bien peut-être. Hein. Parce qu'il y a la première mort, il y a la seconde mort. Lisez le livre de l'Apocalypse, vous le trouverez aisément dans la fin du livre. Donc, la mort, la finalité de toute chose demeure toujours un mystère pour chacun d'entre nous. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça sera dans 40 ans ici? Alors bon, il y en a beaucoup qui sont partis déjà. Hein, mais moi, je pense à la génération suivante. Hein. On a des enfants, on a des petits-enfants, et on se dit, mais qu'est-ce que ça va faire? Pourtant, le but ultime de notre temps se dévoile en ceci, dans ce que Pierre nous dit. Et je pense qu'il a des propos qui sont tout à fait pertinents. 2 Pierre, chapitre 3. Et verset 9, il est dit cette parole, tout simplement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Ah, c'est pour ça que ça dure. Envers vous, envers nous, envers les hommes, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la clé. La clé à tous les instants, dans toutes les circonstances. Alors, ce n'est pas la peine de se culpabiliser si vous n'avez pas commis quelque chose. Parce qu'il y a des chrétiens qui se torturent, finalement, l'esprit et la conscience, alors qu'ils n'ont rien fait. Et ça, ça vient d'une autre voie, ça. Hein. Mais par contre, il y a cette possibilité, finalement, eh bien, d'être toujours en bonne relation avec Dieu et d'avoir cet agrément de Dieu dans notre vie, lorsque nous commettons une faute, de lui dire, « Seigneur, pardonne-moi. » Ou alors, « Jésus est mort pour rien. » Enfin, c'est clair. Il est mort justement pour les pécheurs. Et nous avons, à ce moment-là, eh bien, ce texte de Pierre nous offre les profits de la grâce souveraine, le contentement de l'innocence selon un autre avertissement. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, de ton enfance, lorsque tu étais jeune homme, jeune fille, avant que les jours mauvais n'arrivent. Parce que quelquefois, ça vous tombe dessus, vous ne savez pas comment ça se fait. Mais alors, vous allez rentrer dans une autre dimension. C'est vrai. On a souvent entendu parler « je perds mon temps ». Bah, je sais pas, moi. Je regarde autour de moi, je me dis, mais non, j'ai encore dans... On le cherche comme des clés qu'on a perdues. Hein. Eh oui. La perte du temps, ou perdre son temps, entendez par là la signification « le dilapider ». Vous savez ce que c'est que de la dilapidation? C'est de la vanité, tout simplement. Temps perdu. Et les causes fréquentes où nous perdons notre temps, c'est souvent notre volonté désordonnée. Alors avis à ceux qui oublient tout, qui égarent tout. Hein, la vie a besoin d'ordre. Hein. Pas un ordre rigide, légaliste et absolu. Parce que là, on ne vit pas, hein, on ne respire plus, ne fait pas, ne goûte pas, ne... voilà. Non, mais on a besoin quand même, et c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour le monde de toute façon. Notre volonté désordonnée, sachant qu'il y a un temps pour toute chose, nous dit finalement le livre de l'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, en effet, c'est le temps où nous avons à réfléchir à tout ça. Parce que demain, il sera peut-être trop tard et on ne pourra pas rattraper les choses. C'est quand on donne la priorité à la frivolité, à la vanité, le plaisir, où il nous est dit, sous la plume de l'apôtre Paul, finalement, ils ont aimé le plaisir plus que Dieu. Eh, nous, pour nous chrétiens, on donne quand même la priorité au Seigneur. On donne quand même. Non, excusez-moi, je retire. Nous donnons la priorité au Seigneur. Entre l'utile et l'inutile, il y a des choses que l'on fait qui sont vraiment... Je peux vous dire, on se pose des questions après. Et quand on a fait des fautes de jeunesse, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ben parce qu'on était jeunes, c'est tout. Parce qu'il y avait de la passion, il y avait toutes sortes de choses. Le besoin impérieux, finalement, de faire le choix entre l'indispensable et le superflu. On va aller un peu plus loin. Le temps de notre vie encombré. Ah. Dans Éphésiens, il nous est dit, parce que Dieu a déjà fait les choses pour nous, pour chacun d'entre nous, chacun à sa manière, chacun à sa façon, chacun selon son tempérament et l'appel que Dieu lui a donné. Il nous est dit que Dieu a préparé de bonnes choses. Il les a préparées d'avance pour que nous rentrions dedans. Moi, je demande souvent au Seigneur, moi, je ne sais pas hein, ce que je vais faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais moi, je sais une chose que tu as préparée pour moi, uniquement pour moi, et souvent au service des autres, eh bien, des choses qui sont déjà préparées. Fais-moi rentrer dedans, s'il te plaît, parce que moi, je ne les vois pas. Et on est surpris que ça se fait naturellement, ça se fait simplement, sans se culpabiliser de n'avoir pu sauver le monde entièrement. Et là, on n'est pas près d'y arriver. Il n'y en a qu'un qui sauve le monde entièrement, c'est Jésus. Tout simplement. À ce titre, eh bien, dans un temps encombré, on y range nos faiblesses pour ce... par ce qui nous plaît, des choses qui nous plaisent. Vous avez vu combien nos maisons sont encombrées? Ah ouais, il y a des gens qui ont des grandes maisons, caves, greniers, hangars, hein, appentis, etc., etc. Tout est plein. Quelquefois, je dis avec ma femme, je dis, mais le jour où ils vont déménager, ça ne va pas être triste. On y pense tous. Nous, on vit dans un petit appartement. Alors, on fait vraiment le tri. Hein. On fait le tri, c'est nécessaire. Alors, on y range nos faiblesses, pour ce qui nous plaît. On y range nos précipitations et d'irréflexion et nos fièvres de convoitise. Alors, on en grange. Voilà. On veut une chose, on la prend, etc. etc. C'est autant physique que moral, hein, matériel que moral. Hein. L'envahissement des préoccupations superficielles. Quelquefois, mais excusez-moi, hein, mais on s'enquiquine pour pas grand-chose. Hein. Et on y passe nos jours et nos nuits à nous inquiéter, à nous faire du souci. Mais oui, on ne peut pas s'en passer. Eh bien, le Seigneur peut nous délivrer, nous donner une véritable délivrance dans nos têtes, dans nos cœurs et partout. Hein. Ouais. L'absence d'organisation d'une vie fouillie. J'ai eu l'occasion de lire un livre qui était très intéressant il y a une vingtaine d'années. C'était « La vie fouillie ». Mais caustique hein, et aussi humoristique. On l'a encore ce livre, mais c'est très intéressant parce que c'est une femme qui était fouillie, hein, une chrétienne qui était fouillie, et elle raconte son histoire, mais avec un piquant extraordinaire. Elle était guérie après, hein, après avoir écrit son livre, mais elle a fait du bien à beaucoup de gens qui s'encombraient, qui avaient un temps d'encombrement, tout simplement. La tyrannie des urgences. Il faut que je fasse ceci. Ça, c'est le problème aussi des pasteurs, hein, ou même des frères anciens, ou même de simplement chrétiens. Il faut que je fasse ceci. Ça, c'est une tyrannie, hein. Si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas être content. Ben écoutez, si vous ne le faites pas aujourd'hui, ben vous le ferez demain, et puis le Seigneur vous donnera une autre occasion. N'allez pas vous rendre malade, parce que c'est ça ce que je veux dire. Hein? Nos exigences, notre perfectionnisme, nous encombrons notre vie de perfectionnisme. D'être partout à la fois. Mais on ne sera pas partout à la fois. On ne sera jamais comme Dieu, omniprésent. Ne vous faites pas de soucis. Ça ne vous arrivera pas. Les superactivités que l'on voit dans notre société aujourd'hui, donnant l'illusion de la plénitude et de vivre intensément. Je ne m'arrête pas une minute, je ne m'arrête pas une heure, je ne m'arrête pas un jour. Mais prenez des vacances. Arrêtez-vous de temps en temps. Quand les couples sont en bascule, eh bien à ce moment-là, partent en week-end. Mais oui, je ne vais pas vous gronder. De toute façon, moi je le fais alors. Mais je le fais parce que je suis en retraite et je prends des vacances. De la retraite, des fatigues, de la retraite. Alors, l'illusion de la plénitude devient intensément. J'ai bientôt fini, parce que peut-être que je vous torture là. Le temps de la raison qui nous impose de l'autodiscipline. On avait parlé de la désorganisation. L'autodiscipline à chaque chose suffit sa peine. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit ça? Chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous en avez assez quelquefois de certaines choses? Eh bien... faites un break, tout simplement. Approchez-vous du Seigneur. Remerciez-le pour le temps, peut-être, qu'il veut que vous puissiez vous reposer. C'est formidable, on se renouvelle, ça nous fait du bien. On change d'air, on change d'oxygène aussi. Parce que tout ça, ce sont des dévoreurs ou dévoreuses de temps. Ça, c'est sûr. Je dis l'inquiétude, les craintes qui rongent notre positivité et qui nous privent de nos énergies et tout simplement de notre volonté. On est tellement plein. Excusez-moi. Pas comme les jours où ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais là, ils n'étaient pas pleins de vin doux. Non, non, ils se sont fait des idées. Hein. Ils étaient pleins de l'Esprit. Et c'est ça ce qui doit nous remplir. Le temps des rêves, pour ceux qui sont un petit peu, vous savez, un petit peu idéalistes, ouais, ils ne sont pas là. Quelquefois, on le voit, on parle, et on s'aperçoit que finalement, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté, tout simplement. Mais est-ce que nous chrétiens, quelquefois, nous le faisons avec le Seigneur nous parle, et on n'écoute pas. Parce que nous sommes partis dans toutes sortes de un rêve, quelque chose. On les appelle les éthérés, pas les déterrés, les éthérés, voilà. Les contemplatifs, ceux qui n'ont plus les pieds sur terre, et qui sont la tête dans la lune. Ah oui, ben voyez, hein, on peut être cosmonaute sans avoir monté dans une fusée. Hein. Attention au brutal réveil des aventuriers d'un avenir imaginaire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont quelquefois comme ça. Ils rêvent. Écoutez, moi je vais vous le dire et je vais vous le redire encore. Au lieu de s'empoisonner avec des lectures, quelquefois chrétiennes et évangéliques, ben vous feriez mieux de lire la Bible et des bons commentaires bibliques. Ah ouais! On a appris des choses en quelques décennies de service. Oh, j'ai lu un livre, il est formidable et tout ça. Ces gens se sont empoisonnés et ils sont partis loin du Seigneur. Mais oui, il y a des bons livres. Ouais, j'ai passé ma vie à lire. Hein. Mais toujours la Bible en priorité, comme finalement critère de reconnaissance de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et on est dans une époque où véritablement il y a des choses qui sont dangereuses, qui courent. Hein. Parce que les temps des faux prophètes, les temps des gourous, et puis tout ça, ils ne sont pas finis. Hein. Ils sont là encore. Hein. Ils sont là. Et il y a des gens qui disent, ben ouais, je veux m'instruire. Ah ben tu parles, ils s'instruisent. Hein. Ils sont en train de prendre du poison. Ils sont en train de distiller des choses toxiques. Alors ils reviennent dans l'église en disant, ben tiens, ça serait bien que l'église fasse ceci et cela. Mais attendez, oh, attendez. Nous, on a perdu beaucoup de gens comme ça. Hein. Ah ouais. Il revenait véritablement, eh bien là, complètement avec du poison. L'ordre, le réalisme, l'indispensable, le nécessaire et l'utile, eh bien si vous nourrissez votre vie de ça, vous avez de quoi faire. Il n'y a pas de problème. Les voleurs de temps. Ah ! Oui, vous savez qu'on est dans une période aujourd'hui où les gens sont d'une honnêteté extraordinaire, hein. Ils se servent sur votre carte de crédit, ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Voilà, il y a tout. Ça commence à bien faire, hein, le téléphone, là, qui nous. Hein, ils veulent nous vendre toujours ceci, cela, etc., etc. Moi, j'ai été obligé de dire plusieurs fois, mais écoutez, moi, je ne suis pas propriétaire. Vous voulez que je change le toit de mon propriétaire? Mais il peut attendre. Hein. Mais c'est pour moi qui paierai, en tous les cas. Non, non, mais je suis bien logé. Les temps volés. Temps volés à cause du téléphone. Assez pratique, ça. Hein. Moi, je réponds plus. Enfin, je réponds plus, c'est filtré. Voilà. La télévision, je suis pas contre. Il y a des trucs qui sont formidables à la télé. Hein. Moi, j'aime bien tous les commentaires sur l'histoire et toutes sortes de choses, les animaux et tout ça. Il y a des choses qui sont bien faites. Hein. Ça, c'est sûr. Mais si vous y passez... Vous savez, il y a un pays outre-Atlantique, là. C'est tous les jours, 24 heures sur 20 heures, la télévision. Comme s'il y avait besoin d'une présence. Comme s'il y avait besoin de satisfaire quelque chose. Il faut entendre du bruit, il faut entendre ceci et cela. L'informatique, tiens, c'est bizarre. Voilà la boîte de Pandore. Et c'est très bien aussi l'informatique. Hein. Moi, je m'en sers. Mais quelquefois, il y a quelquefois des égarements. Enfin, toutes sortes de choses. La voiture et la vitesse. Moi, quand je vois un petit peu ce qui se passe autour de nous, ça rend les gens agressifs. Il faut qu'ils aillent plus vite que l'autre. Il faut qu'ils fassent ceci, cela, etc., etc. On est à peine parti, il faut déjà être arrivé. Eh oui, hein. Ça, ce sont des voleurs de temps. Parce que finalement, on s'aperçoit, c'est arrivé quelquefois, hein, même sur l'autoroute, il y a des gens qui nous doublent à une vitesse extraordinaire, puis finalement, il y a un petit bouchon un petit peu plus loin, et puis on arrive au péage en même temps. Mais c'est lui, il a choisi. Il va payer quand même comme moi, je vais payer, mais j'aurais été beaucoup plus tranquille. Les dépenses et les addictions. Hein, vous savez, actuellement, le commerce, etc., il y a des gens, un petit peu moins maintenant, ça freine. Mais les gens qui ont des addictions d'achat, vous savez, les accros, voilà. La consommation du temps pour tuer l'ennuyeux et la routine. Alors on a besoin de trouver quelque chose, voilà. Et je finis. Enfin, le temps est fini de la prédication. Le temps retrouvé. Ah, j'allais finir sur quelque chose de positif quand même. Hein. Ouais, le temps retrouvé. Nous avons cette parole de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, si ma mémoire est fidèle, il est dit ceci, c'est Dieu qui dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Au temps favorable, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-les, on veut que les, tandis qu'il est prêt. Eh oui. Nous n'allons pas manquer un rendez-vous avec le Seigneur. Hein. Vous croyez que le Seigneur a tout son temps? C'est nous qui avons quelquefois un problème avec le temps. Manquer un rendez-vous avec Dieu et faire avec ou sans, ça va déterminer finalement, en raison de nos décisions que nous allons prises, eh bien notre vie. Et ça peut modifier totalement notre destinée. Ouais, sauvé ou perdu. Là, je parle d'une destinée éternelle. Jésus nous recommande à apprendre à distinguer les signes des temps dans l'Évangile. Ouais, ouais. Moment où Dieu nous visite. Moi, je pense à Jérusalem, où Jésus va pleurer, là, véritablement. Le temps qui va amener des pleurs sur le visage de Jésus. Et il dira, mais Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas connu le temps où tu as été visité. 70 ans après, il n'y restait plus rien du tout. Mes amis qui êtes là, si vous avez une décision à prendre, prenez-la aujourd'hui. Ouais, c'est maintenant. Et vous verrez combien Dieu est grand. Et combien de l'avoir fait attendre pendant des années, des années, des années. Il n'a pas perdu patience, hein, il continue à vous appeler. Mais une chose qui est certaine, c'est que ne le faites pas attendre. Parce que Dieu se réjouit quand une âme se repent et rentre dans le royaume de Dieu. C'est maintenant. Ce sont des temps de la grâce parce que remettre toujours à demain, ou oui, au jour qui vient, c'est un futur parce que un futur, par nature, est incertain, et c'est une sorte de roulette russe. Vous ne jouez pas à la roulette russe, non? Vous savez? Un barillet, 6 balles, 5 qui sont inoffensives, et il y en a une de vraie. C'est un suicide. d'un suicide, tout simplement. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas. Car personne ne sait ce que le jour du lendemain peut enfanter. Alors si aujourd'hui, si maintenant, si à l'heure qu'il est, vous entendez la voix de Dieu, eh bien, ouvrez votre cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons, Père éternel, que tu nous as fait tes créatures et que tu nous as, en effet, ce n'est pas enfermé, mais c'est une forme finalement où nous sommes cadrés pour préparer quelque chose où il n'y aura plus de cadre, où il n'y aura plus d'espace restreint, où le temps n'aura pas de fin. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Et moi, je te demande qu'à la suite de ce partage de réflexion de ta parole sur le temps, eh bien, nous puissions vraiment prendre ça en considération et se tourner vers toi et te dire, aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, je te donne, en effet, eh bien, tout ce que tu as préparé pour moi, y compris le salut, pour que je puisse véritablement partager ton royaume dans le ciel. Le royaume de Dieu sur la terre, mais le royaume des cieux dans les cieux. Merci Jésus. Amen.